9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour, Océane Lerouge.
Bonjour.
Bienvenue dans Culture Média. Vous êtes journaliste, reporter pour la télévision. Vous aviez déjà réalisé des docs, notamment auprès des jeunes et des ados et de leurs problèmes. Aujourd'hui, vous signez un documentaire très personnel. Le titre, Contraception masculine, la révolution du caleçon. C'est à voir ce soir à 23h20 sur Teva et puis aussi en replay sur Sisplay parce que c'est un horaire tardif. Documentaire très personnel parce qu'il commence par une question intime que vous vous posez depuis une quinzaine d'années au sujet de votre contraception à vous.
Exactement, le fil rouge un peu, en tout cas le début de ce documentaire, c'est ma quête personnelle où je me suis retrouvée sans option vraiment de contraception à un moment donné de ma vie, puisque première pilule, je fais une thrombose, la deuxième, elle est retirée du marché parce qu'on se rend compte au bout de plusieurs années qu'elle augmente les risques de cancer du cerveau, j'essaye le stérilet, ça marche pas. Et vraiment, mon dernier rendez-vous avec ma gynéco, elle me dit « Bon, bah voilà, votre dernière solution, c'est une pilule qui est en phase de test, mais qui risque d'impacter votre pilosité. » Et là, je pense que j'ai une vision de moi pendant deux secondes avec une moustache ou un monosourcil et je me dis « Non, mais là, c'est bon, j'arrête les frais. J'arrête de jouer avec mon corps parce que je pense que j'ai assez donné en termes de contraception. » Mais le fait est que je suis au pied du mur et du coup, je me pose la question « Qu'est-ce qui existe de l'autre côté, donc du côté des garçons ?»
Je ne l'ai pas dit, vous avez 30 ans, donc c'est la moitié de votre vie, 15 ans.
Ça fait quand même pas mal de galères.
La moitié de vie, c'est quand même énorme. Donc, la contraception masculine, parce que ça peut exister. D'abord, juste un mot, vous n'êtes pas la seule dans ce cas. Les femmes, les jeunes femmes prennent de moins en moins la pilule.
Oui, c'est vraiment une tendance. Alors, les derniers chiffres officiels sont datent un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment une tendance. Il y a un désamour, notamment de ma génération, plutôt des trentenaires, on va dire, des jeunes femmes pour la pilule, parce que méfiance envers les hormones, méfiance parce que voilà, c'est quelque chose qui a des effets secondaires, qui n'est pas forcément naturel. Et effectivement, la prise de pilule est en chute libre.
Alors, vous avez décidé d'aller voir les hommes. Qui avez-vous rencontré? Parce qu'il y a plusieurs méthodes de contraception masculine. D'une phrase, vous les résumez et après, on va faire cas par cas.
Très bien. Alors effectivement, dans les trois grosses méthodes, dans les hommes que je rencontre, donc il y a le premier qui a choisi la vasectomie, qui est la méthode définitive la plus connue. Il y en a un autre qui est célibataire, c'est un profil que je trouvais assez intéressant, et qui choisit la méthode hormonale. Et il y a un couple que je suis vraiment de A à Z, qui choisit la méthode, donc l'homme choisit la méthode de contraception thermique.
Alors je vais faire dans l'ordre chronologique du doc. Vous avez commencé par la vasectomie, on y est. C'est un couple, il s'appelle Guillaume, elle s'appelle Delphia, ils ont 37 ans, tous les deux. Un mot sur cette pratique. D'abord, vous les avez trouvés comment? C'était des amis d'amis ou ils militaient au sein d'une association? Comment vous êtes tombés sur eux deux?
Alors, je suis tombée notamment sur Guillaume, puisque en fait, lui, il commençait un projet de BD pour parler de son parcours contraceptif. Donc, c'était en fouillant, je pense, sur Instagram. J'ai vu passer quelques planches. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui a énormément d'autodérision, qui parle d'un sujet qui fait peur avec de l'humour. Donc, je me suis dit, en fait, c'est l'avantage.
La vasectomie, d'un mot, vous avez dit que c'était définitif, mais moi, j'ai bien vu votre doc et il paraît que c'est pas totalement définitif. On peut quand même avoir subi l'opération et avoir encore des enfants.
Alors, il y a déjà de toute façon des backups, c'est-à-dire que bah, il y a la congélation du sperme, il y a aussi le fait qu'on produit toujours des spermatozoïdes même après la vasectomie, donc on peut toujours faire une biopsie testiculaire, donc voilà, les récupérer directement à la source pour éventuellement faire des inséminations artificielles. Et alors là, c'est un gros débat. En France, tous les urologues me disent ils font signer un papier en disant que c'est définitif. Après, dans d'autres pays, je pense aux États-Unis, enfin voilà, où ils n'ont plus l'habitude de pratiquer l'opération, c'est réversible.
Alors, c'est pas simple en France. Guillaume a dû passer par trois urologues différents avant de pouvoir faire pratiquer la vasectomie. On comprend que c'est pas encore passé dans les mœurs. Et bizarrement, c'est dans le privé que ça se passe. On l'écoute.
C'était plus dans un secteur privé, sauf que secteur privé, ça coûte une blinde. Ne serait-ce que la consultation, je me souviens encore le jour où Guillaume il est rentré à la maison, il me dit 80 balles pour me faire tâter les baloches. Quoi. Enfin, il était fou, quoi.
Alors ensuite, j'ai trouvé à presque une heure de chez nous une urologue dans un hôpital qui fait pas de dépassement d'honoraires, qui m'a pris en charge et ça s'est super bien passé.
Super, l'urologue au top de top.
Et en fait, ouais, des fois, je me demande chez certains mecs qui veulent faire ça, si déjà le processus pour réussir à l'avoir, déjà, rien que ça doit être rédhibitoire. Quoi. Au bout d'un moment, il y en a peut-être qui se disent, oh, fais chier, je laisse tomber. Quoi.
Voilà, et ça va totalement contre la doxa, parce qu'on imagine que c'est le système public qui fonctionne bien. Pas du tout. Vous donnez ce chiffre au Québec, un tiers des hommes de moins de 50 ans ont déjà adopté la vasectomie.
Oui.
Et ça m'a assez frappé. Personnellement, je ne connais qu'un homme qu'il a pratiqué la chose, il est venu le raconter à ce micro. C'est l'écrivain Alexandre Jardin. Il le raconte dans son dernier livre aussi. Il vient de vivre une nouvelle histoire d'amour avec sa nouvelle fiancée. Ils ont décidé que jamais ils n'auront d'enfants. Et vous savez quoi ? Elle est québécoise. Voilà. Comme quoi, tout s'explique. Il y a la méthode thermique. C'est comment la méthode thermique ? C'est la méthode sur laquelle vous mettez le plus gros coup de projecteur, si j'ose dire. Océane Lerouge est avec nous. Culture Média continue sur Europe. L'enchaînement n'est pas facile, mais nous y sommes. On parle de contraception masculine avec le sous-titre de ce doc qui passe ce soir, signé par vous, Océane Lerouge, La révolution du caleçon. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autre méthode de contraception pour les hommes, c'est la méthode thermique. D'un mot, expliquez le principe.
Alors la méthode thermique, ça consiste à remonter avec différents dispositifs, donc soit un sous-vêtement, soit un anneau, dont je parle dans le documentaire, à remonter les testicules contre le corps en fait, donc d'utiliser non pas une source de chaleur externe, mais d'utiliser bien une source de chaleur interne pour réchauffer les testicules. Et en fait, quand elles sont à température du corps, les testicules, la spermatogenèse, la production de spermatozoïdes s'arrête.
Alors il y a des caleçons particuliers, d'où ce titre, La révolution du caleçon. Vous allez rencontrer un jeune couple qui a décidé de s'y mettre. Ils s'appellent Florian et Emeline. Ils ont besoin d'un slip chauffant et c'est là où c'est complètement surréaliste ce reportage, parce qu'on va de surprise, de découverte en découverte. Où est-ce qu'on pourrait trouver un slip chauffant, on va se dire, chez le marchand ? Pas du tout. Il faut le fabriquer soi-même. Et une fois par mois, dans un bar de Lille, il y a, je vous cite, un atelier de couture militant.
Exactement. Donc, dans ces ateliers couture, on voit donc des groupes d'hommes qui apprennent à utiliser une machine à coudre, qui prennent filet et aiguille en main pour se confectionner leurs propres sous-vêtements.
Pourquoi c'est pas en vente ? Pourquoi ils l'achètent pas dans une boutique ou sur Internet ? Parce que c'est interdit ou est-ce que c'est militant jusqu'au bout du bout ?
C'est juste qu'il n'y a pas assez de demandes pour qu'il y ait une commercialisation pour le moment. Et puis il y a le côté aussi sur mesure, vu que voilà, ça, il faut que ça soit adapté à la taille de chacun.
Alors il y a une dizaine d'hommes autour de la table le soir où vous filmez. Ils ont une trentaine d'années. Chacun raconte son expérience. Et là, on dirait un groupe de parole, un peu comme les Alcooliques Anonymes, sauf que là, il s'agit de raconter aux autres son désir de slip chauffant.
Ici, on confectionne l'équivalent du slip chauffant dans une version épurée avec des lanières élastiques. Ça s'appelle le jockstrap.
Bon ben bonsoir à tous. Tout atelier donc numéro
3628.
Voilà, on ne les compte plus. Bienvenue.
Bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Moi c'est Denis. Alors là, normalement, vous dites bonsoir, Denis.
Bonsoir, Denis.
Bonsoir, Denis.
Formidable. Je suis pas en couple, mais qui sait ce qui pourrait se passer dans 3 mois, donc voilà.
Moi, du coup, c'est ma 3e séance et je compte bien terminer mon jockstrap. Un rouge et l'or.
J'en porte un aussi depuis janvier. Peut-être repartir sur le 3e modèle ce soir. On va voir. Léopard. Et du coup...
J'espère avoir un léopard aussi.
J'ai appris un nouveau verbe, se contracepter. Ça va même plus loin parce que on les voit qui manient le fil, l'aiguille, la machine à coudre. Et de votre propre aveu, vous trouvez ça amusant?
De l'extérieur, oui, on a l'impression que c'est un peu surréaliste. Et surtout de voir l'investissement, parce qu'il y en a qui y reviennent pour la troisième fois.
Ce que je trouve amusant, c'est de voir des garçons manier la machine à coudre. Dites-le.
C'est vrai, c'est amusant.
Il y a une petite revanche sur l'histoire et on ne peut pas vous donner tort. Il y a des ateliers comme ça à Quimper, à Paris, à Toulouse, à Nantes, vous l'avez raconté. Et vous avez aussi découvert une autre innovation thermique simple et prometteuse. C'est un anneau en silicone, il s'appelle l'AndroSwitch. Il a été inventé il y a 5 ans par un ancien infirmier du côté de Bordeaux, il s'appelle Maxime Labrie. L'anneau a été vendu à plus de 10 000 hommes dans 50 pays, mais... En France, la vente de l'anneau a été suspendue l'an passé en 2021 par l'Agence nationale de sûreté du médicament, la ANSM. Pour quelle raison ?
En fait, tout dispositif médical doit passer des tests cliniques. Et là, en fait, c'était le créateur de cet anneau n'avait pas forcément les moyens logistiques, enfin les moyens financiers de faire ces tests cliniques. Donc, quand il a été commercialisé, il ne passait pas effectivement toutes les étapes pour commercialiser un dispositif médical.
Alors, il essaie désormais de passer les étapes. Son créateur, Maxime Labrie, vous l'avez rencontré et il a ses arguments. Écoutez.
Cet ensemble de dossiers représente
représente à peu près 4 années de travail et 1 gros million d'euros. Et ce n'est pas possible à l'échelon d'un petit porteur de projet. Ça l'est pour un lobby pharmaceutique qui est totalement désintéressé pour que ce genre d'objet puisse accéder au marché, parce que les lobbies pharmaceutiques n'ont aucun intérêt à développer ces méthodes qui ne sont pas intéressantes d'un point de vue de marché, et pour des raisons aussi purement socioculturelles, parce qu'en général, les décideurs dans ces sociétés, c'est des personnes d'une 50aine à 60aine d'années, hommes blancs, cis, hétéros, et qui n'ont aucun intérêt d'un point de vue de la violence patriarcale à changer la donne. Donc c'est pour ça qu'ils ne le développent tout simplement pas.
Alors lui, il est plus féministe que les féministes. Rien que le vocabulaire homme blanc, cis, hétéro, déjà ça veut dire quoi, cis? C'est CIS, hein, c'est pas le chiffre 6.
Non, c'est CIS. 6, c'est dans le sens, c'est quelqu'un qui est en accord avec son genre assigné à la naissance.
C'est-à-dire que c'est un homme hétéro qui assume le fait d'être un homme.
Qui assume le fait d'être un homme, exactement.
D'être un homme, pas même hétéro. Qui assume le fait d'être un homme.
Exactement.
Le produit vous plaît, vous dites, j'aimerais bien voir bientôt cette solution naturelle et économique dans les rayons des pharmacies. Et alors, vous êtes allé, là aussi ça devient complètement lunaire, dans une sorte de laboratoire clandestin, dans un sous-sol parisien, avec des jeunes hommes qui se confectionnent des anneaux artisanaux.
Exactement.
C'est légal ou c'est pas légal? Pourquoi c'est un sous-sol?
C'est juste la configuration des locaux. C'est légal, c'est-à-dire que de toute façon, ils ont tout à fait le droit de créer leurs propres anneaux. Et là, effectivement, on les voit jouer avec un peu du silicone, se faire leur petite tambouille, leur petite recette. Et oui, cette séquence est effectivement assez amusante.
Pour reprendre notre expression, la résistance s'organise, dites-vous. Le mot résistance est très connoté, il a un sens. Résister contre quoi?
Là, je le disais spécifiquement en réaction à la décision de l'ANSM. Puisque effectivement, la Haute Autorité de Santé a mis à l'arrêt cette solution qui était vraiment statistiquement la méthode la plus prisée de contraception masculine.
Pardon de faire un point Godwin, mais quand on résistait, c'était contre les nazis. L'ANSM, elle n'est pas fondée, leur décision?
Si, si, leur décision est fondée.
Vous pensez qu'on peut sortir des produits médicaux sur le marché comme on a envie?
Non, non, bien sûr que non. Non, non, même le créateur l'admet. C'est même lui, ça va dans son sens, en fait, finalement, qu'il y ait un meilleur encadrement de cette méthode. Après, là, ce que je trouvais amusant, c'est qu'il y avait tellement d'hommes qui se disaient mais en fait, on veut cette solution, peu importe si c'est artisanal, peu importe si on doit, entre guillemets, faire un peu cobaye. Ils sont prêts à faire leurs propres anneaux et à tester les dispositifs sur eux.
Alors, ce qui vous plaît aussi dans ce sujet, c'est les couleurs. Je vous cite du rose, du doré, des paillettes. Ce que je trouve génial, c'est vous qui le dites. C'est que ces mecs, c'est vous qui le dites aussi, s'autorisent à assumer les couleurs qui bousculent les codes de la masculinité. Je vous le reproche pas, mais là vous êtes davantage que journaliste, vous êtes militante.
Oui, je pense que c'était assumé effectivement de dire ça à partir du moment où c'est personnel, on va dire, ce documentaire a quand même un aspect très personnel. Et ce que je trouvais drôle dans le slip ou les anneaux, c'est qu'effectivement, je pense que c'est des hommes qui sont tellement à l'aise, qui ont tellement déconstruit les mythes de la virilité qu'en fait, ils assument complètement voilà, les couleurs genrées. Voilà, juste avant, il y en avait un qui faisait un slip léopard avec des paillettes. Bon, bah voilà, c'est assumé.
Là encore, petit point vocabulaire, c'est quoi des couleurs genrées? C'est le bleu pour les filles, les roses pour les garçons.
En gros, voilà.
Étrange conclusion de l'urologue Marc Galliano, qui sert de référent tout au long de votre reportage. Il dit, pour changer les choses, il faut éduquer les garçons. Pourquoi pas les filles? Pourquoi seulement les garçons? Et pas les enfants, pas les jeunes? Pourquoi les garçons?
Alors ça, cet aspect-là, je le trouvais assez intéressant, dans le sens où il me disait ça, parce que finalement, les filles... parce qu'elles doivent passer un moment de leur vie par un gynécologue, etc., ont la connaissance de leur propre corps. Elles ont cette médicalisation de leur sexe, ce qui n'est pas du tout le cas des garçons. Et l'urologue disait, mais il y a des garçons, en fait, le sexe masculin, à part quand c'est évoqué pour de la performance sexuelle, c'est pas du tout évoqué pour la contraception, pour une meilleure connaissance de leur corps, etc. Et voilà, lui, c'était là-dessus qu'il insistait.
On a oublié de dire un moyen de contraception avec lequel souvent les ados démarrent, qui cette fois-ci concerne surtout les garçons, enfin les filles aussi, c'est le préservatif. Et vous ne l'oubliez pas, dans ce reportage, on n'en a pas parlé, mais il y est présent. Merci beaucoup, Océane Lerouge. Vous voyez le nombre d'aspects intéressants dans ce reportage, intéressant et neuf. Contraception masculine, la révolution du caleçon, c'est ce soir à 23h20 sur Téva et ça peut se regarder ensuite quand on veut en replay sur Sisplay. Merci d'avoir été avec nous dans ce studio. J'ai oublié de vous demander quel était votre moyen à vous de contraception, ça sera l'objet d'une prochaine interview. Culture Média continue sur Europe après les infos de 10h. Jeanne Chéral, la chanteuse, non pas pour un album mais parce qu'elle publie un livre, un ouvrage très particulier, personnel et érotique. C'est le hasard de l'actualité, ça s'appelle Couleurs Primitives. Et puis dans les indispensables, Stéphanie Loire nous parle de la réédition d'un album légendaire de Pink Floyd et Jean Z nous raconte l'histoire du plus gros piratage de jeux vidéo de l'histoire, ça concerne GTA. Jean-Luc Lemoine pour sa session de rattrapage, à tout de suite sur Europe 1.
Culture Média sur Europe 1.